Turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 15.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. » Et le titre de notre méditation ce matin, c'est « Les qualités infinies de Christ ». Et nous en arrivons à ces versets dans notre deuxième étude de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais considérer ce matin quatre versets, les versets 15 au verset 18. En suivant cette introduction extraordinaire, ces 14 premiers versets de ce chapitre, le Créateur préexistant, la parole, la source de la vie, la lumière de l'homme, la lumière, la vraie lumière, la véritable lumière, la vie, le sauveur du monde, pour tous ceux qui le reçoivent, c'est là Christ. Et nous en arrivons à ce verset 15. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant, nous voyons ici au verset 15 l'éternité de Christ, au verset 16 ses capacités infinies, au verset 17, nous voyons ce qu'il a accompli, et au verset 18, nous voyons sa révélation du salut de lui-même et du Père. Et pour en revenir au verset 15, pour introduire ce passage qui est là devant nous, tout ce chapitre est extraordinaire. Quand nous considérons ce passage de près, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cela, mais les gens ont dit, et je crois que c'est vrai, que ce passage a quatre thèmes qui sont là dans ces versets, du verset 1 au verset 18. Et chaque thème est construit comme une spirale alors que vous considérez ces versets. Et ces quatre spirales sont là ensemble, l'une en parallèle de l'autre. Et vous pouvez voir ceci, c'est extraordinaire. Non pas que l'auteur inspiré, l'apôtre Jean, s'est assis et pensé « Oh, comment est-ce que je peux construire ces pensées, ces paroles pour qu'il y ait là un modèle, un profil qui sont là d'une manière compliquée en parallèle ?» Oh, bien sûr que non, il n'a jamais pensé ceci. Mais c'est là la parole de Dieu inspirée, divine. Et ce n'est pas surprenant que de voir cette structure extraordinaire dans la parole, dans la manière d'utiliser les termes et les pensées, comment elles sont présentées. Et j'aimerais passer un peu de temps pour vous expliquer cela. Par exemple, au verset 1, vous avez la parole. Vous êtes introduit ici à Christ, la parole, l'expression même de Dieu, la parole de Dieu, le langage de Dieu, comme Jean Calvin le traduisait. Et ceci disparaît. Puis, à nouveau, au verset 4 et au verset 5, la lumière des hommes, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et ensuite, ce thème disparaît et réapparaît au verset 8 et 9. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière, la véritable lumière, et il explique ces choses. Et ensuite, ce thème disparaît et réapparaît au verset 14, et la parole a été faite chair. Ainsi, vous avez la parole de Dieu qui est comme une spirale qui remonte à la surface de manière répétée, alors que vous voyez ce passage. Et pensez un peu à Jean-Baptiste. Il est là, introduit au verset 6 à 8, puis il disparaît, puis il réapparaît au verset 15, puis il disparaît, puis il réapparaît au verset 19. Et je pourrais parler de ces quatre thèmes de la même manière. Comme des hélices, des spirales qui apparaissent l'une après l'autre à la surface. C'est une manière de construire ce texte qui est assez rare et merveilleuse. Et j'aimerais vous montrer autre chose qui est assez merveilleuse. À partir du verset 1 jusqu'au verset 17, vous voyez là dans toutes ces références à Christ, c'est comme une montée, une ascension. Et au verset 1, vous pouvez commencer là, Christ est la parole et il est identifié là comme étant Dieu égal au Père. Et au verset 2, il n'est pas nommé, mais il est le même. C'est toute la description qui est donnée. Même si ici Jean décrit le Créateur, il pouvait continuer et voir qu'il est la lumière, la vie, mais il n'est pas nommé. Et alors que les versets continuent, c'est lui et ça et il. Mais qui est-il? Nous avons vu tous ses attributs et ces choses sont construites là et nous avons une description de son œuvre, mais c'est tout lui, lui, il, jusqu'au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, pour la première fois, il est nommé. C'est comme s'il y avait cette progression, cette ascension jusqu'au nom de Jésus-Christ. Et je vais m'arrêter là, mais c'est une chose extraordinaire que d'étudier l'évangile de Jean, même la structure même du texte et ses caractéristiques littéraires parce qu'elles sont merveilleuses. Il y a tant de choses et qui se répètent également alors que vous considérez l'évangile de Jean. Et j'aimerais en arriver au verset 17 et appliquer ceci pour nous, au verset 15, pardon. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi. » Ceci parle de Christ, de son être éternel. Il s'est déjà référé à ceci dans les versets précédents du chapitre, sa préexistence. Et comment Jean-Baptiste savait ceci? Il était celui qui précédait Christ, son prédécesseur. Il était le premier prophète depuis Malachie qui a été donné aux Juifs pendant 400 ans. Il est souvent appelé le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et certains ne sont pas d'accord, non, il ne peut pas être le dernier prophète de l'Ancien Testament parce que Christ lui-même était le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau Testament. Mais il est très certainement le dernier prophète de l'Ancien Testament même s'il est 400 ans après tous les autres, parce que si nous définissons la prophétie comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme ceux qui annoncent la venue de Christ et qui parlent de Christ, alors il est le dernier dans ce sens-là et il est le prédécesseur de Christ, celui qui vient avant lui, le prophète final qui a été prédit par le prophète Ésaïe, prédit dans Malachie également. Et il est là et Dieu l'inspire et l'enseigne et il sait qui est Christ. Il voit son authentification divine à son baptême, et même avant cela, il a parlé de lui et il l'a identifié. Et il a pointé le doigt sur Jésus-Christ. Et par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Jean lui rendit témoignage et lorsqu'il s'écria, il disait « C'est ici celui dont je disais ». Et ensuite il dit « Celui qui vient après moi est au-dessus de moi ». Jean-Baptiste est un lévite, un fils de prêtre, mais un prophète. Mais il dit que Christ était avant moi, il préexistait avant moi et il est bien au-dessus. C'est là ce terme qui est traduit par préféré ou au-dessus de moi. Il est bien au-delà de moi, bien supérieur. Et j'aimerais commencer avec cela. Une simple observation, simplement pour appliquer ceci dans nos vies. Si Jésus-Christ, le Seigneur, a quitté le ciel pour vous et pour moi, si vous êtes sauvés, si vous l'aimez, si vous êtes confiés en lui, alors qu'est-ce que nous ne ferions pas pour lui? Jean-Baptiste parle ici et il est étonné, il est émerveillé. Oh oui, bien sûr, il est bien au-delà de moi, il est le Fils éternel de Dieu. Il aurait pu dire, oh, il me suit, il est plus jeune que moi. Mais il est avant moi, il est bien au-dessus de moi, il a quitté le ciel lui-même et toute sa gloire, son règne, sa puissance, son royaume et les merveilles de cet endroit de pureté, de perfection. Il est venu dans ce monde pour être humilié, pour souffrir, pour mourir, pour nous sauver et pour nous tenir là à notre place, pour nous représenter, pour prendre l'agonie éternelle, le poids de notre condamnation, de nos péchés sur lui-même. Oh, qu'est-ce que nous ne ferions pas pour lui, chers amis? Nous vivons dans une société qui a tant de luxe, tant de prospérité et depuis notre naissance, nous sommes reprogrammés pour penser uniquement à nous-mêmes et que nous avons des droits et le droit de plein de liberté, de confort, de luxe. Et quand nous venons à Christ, que nous sommes sauvés, que nous sommes ses enfants, oh, nous sommes enseignés à vivre pour lui, qu'il soit lui premier dans notre vie. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas sacrifier et abandonner pour lui? Nous ne vivons pas dans ce monde occidental dans un temps de persécution, de martyrs ou dans un temps de pionniers missionnaires. Nous avons tant de confort. Mais qu'est-ce que nous ne pourrions pas faire pour lui? Oh, Jean lui rendit témoignage. Il dit, c'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi. Il est bien au-delà, au-dessus de moi. Il est le Dieu vivant. Il préexistait. Il était avant moi et avant chacun d'entre nous et il est venu pour nous. C'est simplement en passant. Un commentaire sur ce verset et pensez un peu à Jean-Baptiste. Il dit, lui doit augmenter, il dit ça au chapitre 3, et moi je dois diminuer. Jean-Baptiste était émerveillé devant Christ, la deuxième personne de la Trinité, qu'il vienne pour les pécheurs et pour lui. Oh, ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours, même de manière triste, dans des cercles chrétiens qui croient en la Bible, il y a tant de choses qui sont opposées à cela, contraires à cela. Des gens qui, dans les églises, des pasteurs qui se mettent en avant, et même certains, nous entendons, qui sont des prédicateurs, grandes personnalités, ils ont même des gens qui font de la publicité pour eux, comme les gens du divertissement, les célébrités mondaines. Et Jean-Baptiste dit, il doit augmenter et moi, je dois diminuer. Toute la gloire doit lui revenir. Nous dépendons uniquement de lui, nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Nous devons nous conduire, chacun d'entre nous, dans la simplicité, dans l'humilité, en évitant d'être une personnalité juste pour être vu et éviter de se mettre en avant parce que ceci est faux. Parce que c'est prendre la place de Christ et prendre sa gloire, son honneur. Et nous voyons ceci dans la personnalité de Jean-Baptiste. Et alors que nous allons continuer dans ces chapitres, nous considérerons la personnalité de Jean-Baptiste un peu plus. Celui qui vient après moi est au-dessus de moi, il est bien au-delà de moi, parce qu'il était avant moi. Et au verset 16, ces paroles extraordinaires qui parlent des capacités infinies de Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui parle ici. Jean-Baptiste parlait au verset 15, mais à présent c'est Jean l'apôtre, l'auteur inspiré de l'évangile de Jean, qui parle dans ce récit. Verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et j'aimerais expliquer ces paroles extraordinaires. Au verset 15, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Au verset 16, c'est l'apôtre Jean et son témoignage, et notre témoignage également envers Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ce terme plénitude, vous pouvez voir ici, ses capacités infinies, sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Qui ? Les gens du verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Et la spirale revient, et ceux qui ont reçu le Seigneur sont à nouveau au verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Vous pouvez voir ici que le même terme reçu revient ici, et grâce sur grâce, la plénitude de Christ. Nous avons reçu la bénédiction de ses attributs divins, nous avons reçu son amour, il nous a aimés tellement qu'il a souffert, qu'il est mort pour nous, et il était conscient, parce qu'il était Dieu tout autant qu'homme, en tant qu'homme, il a souffert la condamnation, en tant que Dieu, il pouvait voir chacun dans les yeux de son cœur pour qui il souffrait. Il pouvait se concentrer sur chaque personne, et ceci est extraordinaire quand nous y pensons, mais il est Dieu également, et des millions et de millions de personnes sont sauvées dans l'histoire de ce monde, de siècle en siècle. Il pouvait tous les voir, chacun, personnellement. Ceux pour qui il portait les péchés, chacun pour qui il a souffert. Ainsi, nous avons reçu son amour, son affection si profonde, si grande, qu'il allait passer par toute cette expérience dans son corps humain, dans son humiliation, pour nous. Et nous avons reçu de sa plénitude son amour, sa puissance, de sa plénitude, de ses capacités infinies. Nous avons reçu ainsi par son esprit, il nous a régénérés, il nous a amenés à lui, il nous a transformés. Et il a fait de nous ses enfants, nous lui devons tout, nous recevons tout de sa main. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, de sa capacité infinie, tous, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Au verset 12, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Certaines traductions modernes changent ceci et disent « grâce sur grâce », »,« grâce abondante », mais « grâce pour grâce » est quelque chose qui est plus profond, qui a plus de signification et qui est plus près de l'original. Grâce pour grâce, quelle est la différence? Qu'est-ce que cela signifie? Oh, c'est merveilleux! Nous recevons la grâce sur grâce, une grâce abondante, le salut est par la grâce, toute bénédiction que nous recevons en Christ, toute avancée spirituelle, chaque fois qu'il nous aide, tout est par grâce. Ainsi, nous avons cette grâce abondante, grâce sur grâce, mais les traducteurs traditionnels sont sûrs que c'est grâce pour grâce. Ceci signifie que nous avons une grâce qui ouvre la porte à une autre grâce. Ainsi, grâce pour grâce, c'est comme un escalier qui monte, si vous voulez. Ainsi, vous recevez la foi, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous le dit, c'est le don de Dieu. C'est une grâce, la foi que nous recevons. Ainsi, je reçois de la part de Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, la capacité de croire en lui. Quand il a touché mon cœur pour la première fois et qu'il m'a réveillé, mon esprit a été ouvert et tous mes préjugés ont été mis de côté, balayés. Et mon cœur a été enclin à l'écouter. Et soudainement, j'ai cru, j'ai compris l'évangile. C'était l'œuvre de l'esprit qui régénère par sa grâce, qui m'illumine, qui me convainc de péché, qui œuvre dans ma vie. Et sans cette œuvre de l'esprit, l'esprit qui met cette semence de la vie en moi, alors jamais je n'aurais pu croire dans l'évangile, jamais je n'aurais pu être enclin à écouter, jamais je n'aurais répondu à Dieu, jamais je n'aurais été touché et convaincu de péché. Ainsi, même cette puissance, cette capacité de me confier en lui m'a été donnée. J'ai cru en lui de tout mon cœur. Et malgré tous les doutes que j'avais et toutes ces mauvaises informations qui remplissaient mon esprit, ma pensée, tous les mensonges qui m'ont été enseignés par rapport à la Bible, par rapport à toutes ces soi-disant erreurs qu'il y a dans la Bible, et la supériorité de la science, de la découverte, de l'évolution, de la société, tout ceci, malgré tout cela, le Seigneur m'a donné cette réalisation que la Bible est vraie, que Dieu existe, et que ces choses sont vraies. Et ces choses sont devenues les choses les plus importantes pour moi dans le monde entier et pour vous. Et tout ceci était par grâce. Mais quand cette foi a été exercée et il a fallu que je l'exerce, alors la porte s'est ouverte vers une autre grâce. Cette nouvelle naissance consciente, cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance, cette nature formée en moi, cette nouvelle compréhension, cet esprit émancipé pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, les vérités spirituelles ou une certaine mesure, ces vérités spirituelles. Et ensuite, j'ai lu la parole de Dieu et je prenais tellement de plaisir dans la parole de Dieu et j'ai vu ces choses avec un œil nouveau et j'ai réalisé que je suis un enfant de Dieu adopté par Christ. Je savais que j'étais son enfant et l'assurance est venue. Une grâce a suivi l'autre grâce, alors que chaque grâce a été reçue et exercée comme il le fallait. Alors, une autre grâce est venue, la sanctification ensuite, et j'ai réalisé mes responsabilités de garder la loi de Dieu, de lui obéir, de lui plaire. Et soudainement, j'ai réalisé que le péché, mon ancien ami, est mon pire ennemi et j'ai haï le péché. Et chaque fois que je suis tombée dans le péché, c'était quelque chose de terrible. Et ce combat contre le péché a commencé. Et alors que nous sommes entrés dans ce combat, nous avons reçu une autre grâce pour avoir la délivrance du péché et pour combattre le péché. Et ensuite, j'ai réalisé que je suis un enfant de Dieu, que je dois servir le Seigneur, lui plaire et témoigner pour lui. Et alors, j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche ou faire autre chose pour lui plaire, pour le servir. Et ainsi, grâce pour grâce, grâce sur grâce, oui, mais grâce pour grâce, ceci est meilleur. Chaque grâce amène à une autre grâce jusqu'à ce que finalement il y ait cet appel vers la maison et la grâce la plus grande que d'être transformé et de voir le Seigneur. C'est là le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, de sa capacité infinie. Et grâce sur grâce, tout ceci vient du Seigneur. Et grâce pour grâce. Ne mettez pas un obstacle à ces grâces l'une après l'autre en péchant, en regardant des choses qui polluent votre esprit, votre pensée et qui gâchent votre foi, votre amour et qui vous rendent une offense contre Dieu. Alors vous ne recevrez plus de grâce jusqu'à ce que vous vous repentiez. Ou en médisant, en disant des choses mauvaises. Oh, nous pourrions mentionner toutes sortes de choses, peut-être l'incrédulité. Et en murmurant contre Dieu, en murmurant contre ce qu'il nous donne, toutes ces choses sont un obstacle à la grâce. Grâce pour grâce, ces grâces successives sont arrêtées si nous péchons. Et nous n'avons plus cette grâce de Dieu. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est merveilleux, chers amis. Ne soyez pas un obstacle à cela. C'est là la signification de ce verset. Et c'est là une partie de cette application pour nous. Mais j'aimerais en venir au verset 17. Et nous voyons ici l'accomplissement puissant de Christ, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et j'aimerais vous confesser quelque chose à présent. La tendance des prédicateurs, c'est de voir ces deux termes extraordinaires, la loi et la grâce. Et immédiatement, et je suis sûre que j'ai fait ceci également, la tendance des prédicateurs, c'est de tourner ce verset comme une discussion entre la loi et la grâce, parce que c'est si facile. Et nous comparons la loi et la grâce, et ceci est vrai et valide, et quelque chose qui nous édifie, parce que la loi nous condamne et la grâce nous rend libres. Et nous pensons à toutes les caractéristiques de la loi, toutes les caractéristiques de la grâce. Et ceci serait une prédication édifiante et merveilleuse. Mais ce n'est pas ce que nous devrions faire, parce que ce n'est pas là ce que l'apôtre Jean inspiré veut dire. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il parle ici, non de cette opposition entre la loi et la grâce, et si vous faites ceci dans ce contexte, si vous exagérez cette opposition, là, vous donnez l'impression que l'Ancien Testament était tout sous la loi et que le Nouveau Testament est la grâce et qu'il n'y avait pas de grâce dans l'Ancien Testament et que maintenant nous l'avons et qu'elle est bien supérieure. Bien sûr qu'elle est supérieure, mais ce serait faux que de donner cette impression parce qu'ils avaient la grâce dans l'Ancien Testament également. L'apôtre ne dit pas que la loi était uniquement là dans l'Ancien Testament et tout est grâce à présent. Écoutez ceci, car la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ceci parle de ces qualités de celui qui amène chacune de ces choses. La loi a pu être donnée par Moïse. Elle a pu être donnée par quelqu'un qui était uniquement un homme, parce que tout ce qui était requis, c'était de publier la loi. Ainsi, les 10 commandements et les cérémonies de l'Ancien Testament pouvait être donnée par un homme, Moïse, un homme extraordinaire, un homme merveilleux, et l'homme le plus humble de tous, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, l'homme Dieu. Et les hommes importants ne sont pas en général humbles. Moïse était un homme grand, mais il était toujours encore un homme, et il avait ses faiblesses, et nous lisons certaines de ses faiblesses dans le Pentateuque, nous l'admirons, mais il était impatient par moments, et sa foi par moments était faible, et il dépendait de Dieu. Il était simplement un homme, mais si votre mission c'est de publier la loi, et de l'imprimer si vous voulez, de la publier, alors un homme peut faire cela. Et c'est là ce que Moïse a fait. Il a également publié la grâce dans Deutéronome, chapitre 29, 30, 31. Les grâces sont là, publiées par Moïse, l'alliance de grâce. Chers amis, Moïse, à la fin de sa vie, quand il a prêché toute sa vie, quand il prêche Christ dans un certain sens et le besoin de la grâce et cette communion avec Dieu, cette circoncision du cœur, et il prêche tout ceci. Et Paul nous dit dans la lettre aux Romains que Moïse a prêché la grâce. Oui, mais tout ce qu'il a fait, c'est de la prêcher, de la publier. Vous pouvez avoir le pardon de Dieu, la vie nouvelle, la miséricorde de Dieu, cette communion avec lui, en vous confiant dans sa miséricorde, dans cette grande chose qu'il fera un jour pour annuler la condamnation du péché. Mais pour procurer cette grâce, non seulement la publier, mais pour procurer cette grâce, pour la donner, il fallait attendre jusqu'à la venue de Christ, parce qu'aucun homme ne pouvait faire cela, Moïse ne pouvait pas faire cela. Seul Dieu, homme, la deuxième personne de la Trinité, Dieu incarné dans cette personnalité humaine, a pu faire cela en vivant une vie parfaite, entièrement parfaite, sous cette oppression si terrible, en souffrant, en mourant à la croix du calvaire, pour expier les péchés des pécheurs, de tous ceux qui seront sauvés. Seul Christ pouvait faire cela. Seul Dieu pouvait faire cela. Il a dû être homme pour souffrir comme nous aurions dû souffrir, mais il devait être Dieu pour le soutenir, pour passer par cette expérience, pour vivre cette vie parfaite, de justice parfaite. Ceci parle des qualités de la personne au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. Bien sûr, ceci était possible parce que c'était simplement une publication des critères moraux glorieux de Dieu, si glorieux. Mais la grâce et la vérité ne pouvaient pas venir par un homme ou un ange, mais pouvaient venir uniquement par la parole, par le Créateur, par celui qui était Dieu tout autant qu'homme. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, je ne peux pas simplement prendre la loi et la grâce et faire une prédication en parlant de ces oppositions entre les deux, mais l'opposition ici, c'est Moïse et Christ. Moïse qui est uniquement qualifié pour publier la loi et Christ qui a donné cette grâce, qui l'a rendue possible, la grâce et la vérité. Toute la grâce, la miséricorde qui a été montrée par Dieu aux pécheurs qui se repentent dans l'Ancien Testament, toutes ces choses attendaient la venue de Christ. Les gens pouvaient être pardonnés dans tout l'Ancien Testament, ils pouvaient être sauvés par la grâce. Mais cette grande transaction qui allait rendre leur salut possible a attendu la venue de Christ lui-même. C'est là ce que dit ce verset. Tous ces versets nous montrent la gloire extraordinaire de Christ, sa personne, son œuvre. Car la loi a été donnée, pouvait être donnée par Moïse, c'était la loi de Dieu bien sûr, mais la grâce et la vérité sont venues et devaient venir par Jésus-Christ. C'est là où est l'opposition. C'est là le sens de ce verset, chers amis. La loi, c'est le caractère de Dieu, les demandes de Dieu, les critères moraux de Dieu, mais la grâce, c'est le salut qui nous est donné et qui est mérité, payé par Christ. Ainsi, nous devons dépendre uniquement de Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous dépendons uniquement de lui. Et pour appliquer ce verset. Oh, j'espère qu'il y a beaucoup de grâce et de vérité qui coulent de nos vies également envers les autres. La grâce et la vérité, ceci c'est Christ, et qu'il soit reflété en nous, sa grâce, sa vérité, toujours plein de grâce, toujours bon, plein de générosité, toujours prêt à pardonner, plein de compassion et plein de vérité, toujours sincère, toujours vrai et droit, toujours fidèle. Grâce et vérité, la grâce qui vient de Christ, bien sûr, c'est le pardon, la miséricorde et la bonté que nous ne méritons pas. Et il a la puissance de nous la donner. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Et la vérité, Moïse a proclamé la loi, il l'a publiée, qui était plein de symboles, d'ombres, qui reflétaient Christ et le salut. Et Christ est la vérité dans le sens où il accomplit les ombres et les illustrations de l'Ancien Testament. Il est la vérité. Les sacrifices qui étaient une illustration du grand sacrifice qui allait venir étaient des prophéties, des illustrations qui prédisaient la venue du Messie. Et ces illustrations, si vous voulez, la réalité, c'était Christ à la croix du calvaire. Ainsi, il est plein de grâce et de vérité. La réalité est venue. C'est là l'opposition entre les qualités de Moïse, l'homme, et toutes ces illustrations, ces ombres de l'Ancien Testament, et Christ qui est la réalité. Celui qui a accompli toutes ces illustrations et qui nous a donné la grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ensuite, ce verset 18. Et ceci nous amène à ce dernier point. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Ceci parle de Christ, de sa révélation de Dieu et de la vérité. Et considérons un peu ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Ceci est vrai. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Mais il pouvait simplement avoir une sensation de sa gloire. Il ne pouvait pas voir Dieu. Mais les gens ont vu des manifestations divines. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, bien avant son incarnation. Ces grandes théophanies, ces révélations de Christ dans l'Ancien Testament où Christ apparaissait comme un homme, ils n'ont pas vu sa divinité. Même s'il leur a été dit qu'il était Dieu, personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux physiques. À aucun moment, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique, ce terme en anglais « engendré » est utilisé là non pour souligner l'origine de Christ, mais cette intimité avec le Père, le Fils unique engendré, ne vous dit pas que Christ est né ou engendré. Bien sûr, il est né en tant qu'homme, mais dans l'éternité, il n'a jamais été créé ou il n'est jamais né ou n'a jamais été engendré. Il n'y a eu aucun moment où Christ n'existait pas. Il n'a pas été engendré dans le sens où il est né. Ce terme, le Fils unique engendré du Père, parce qu'il a été engendré éternellement, et ceci est au-delà de ce que nous pouvons comprendre, il a toujours existé. Ce terme est utilisé dans le sens de cette intimité avec le Père, le Fils unique. Vous pensez à nouveau à cette image d'un roi et d'un fils, le fils du roi dans l'Antiquité. Ce fils du roi est un co-régent avec son père. Les deux règnent ensemble. Peut-être qu'ils ont choisi de régner sur différents territoires, mais le fils qui est un adulte à présent est tout près de son père. Il a cette autorité entière et il règne avec son père en tant que co-régent. Et il partage également l'honneur et la gloire, mais ils sont intimes tout près l'un de l'autre. Ils sont père et fils, et ils sont tout près l'un de l'autre. Et ce terme « engendré » signifie ceci, le fils unique, près, intime, aussi intime que possible, également Dieu en possédant cette essence divine de la même manière, éternelle, infinie, et si près, dans l'harmonie, dans l'amour, ils sont un. Et cependant, ceci s'applique également pour le Saint-Esprit, trois personnes distinctes dans la Trinité. Et ce terme, le Fils unique ou engendré, souligne ce concept pour nous. Verset 18, le Fils unique, et ceci est confirmé par ces termes qui est dans le sein du Père. Et cette image est dérivée très probablement de la manière dans laquelle, dans l'Antiquité, ils étaient là pour les repas, ils étaient couchés sur des lits, sur des canapés, et les gens qui étaient près l'un de l'autre étaient proches l'un de l'autre sur ces canapés alors qu'ils mangeaient, allongés. Et chers amis, le Fils unique, son intimité avec le Père, qui est dans le sein du Père, son intimité, sa proximité avec le Père, il est celui qui l'a fait connaître. Et il y a une raison pour utiliser ces termes qui montrent cette intimité entre le Père et le Fils, parce que ces termes montrent que Christ est entièrement qualifié pour révéler, pour déclarer, pour faire connaître le Père et toute la Trinité. Il l'a fait connaître. C'est là le sens de ce verset. Toute notre information vient de Christ. Il est la parole. Par son esprit, il est l'auteur de la Bible. Il a écrit chaque parole dès le début. Quand il est apparu, il a révélé la gloire de Dieu dans sa vie parfaite. Oh, comment les disciples étaient émerveillés devant lui. Jamais il y avait une faute en lui. Jamais un égoïsme, jamais un mauvais caractère ou de la colère, jamais rien de tout ceci, aucune tâche, aucun péché, entièrement parfait, saint, glorieux. Et il a révélé la Trinité dans la perfection de son enseignement également, et dans cette multitude de miracles pleins de compassion, tous ses attributs divins étaient révélés et déclarés à ce moment-là. Il l'a fait connaître, il l'a déclaré en grec, il l'a expliqué et révélé. Comme ce terme exégèse, il a révélé le Père et toute la Trinité, Christ dans sa parole et l'autorité. Il l'a déclaré ou il l'a fait connaître. Ainsi, comme je l'ai mentionné, toutes nos expériences spirituelles, c'est d'apprendre la parole de Dieu, de le voir lui dans l'écriture. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de penser que, oh non, c'est le Saint-Esprit qui est le membre glorieux de la Trinité, que d'avoir ce contact direct avec l'Esprit-Saint et de sentir son toucher, sa puissance. Et alors, je vais frémir et ceci va m'élever, m'encourager. J'ai besoin de ce baptême du Saint-Esprit particulier, au nom, le baptême de l'Esprit, ceci fait partie de votre conversion. Mais non, moi je veux quelque chose de plus, je veux un toucher direct de Dieu, une expérience de quelque chose, de la puissance de l'Esprit. Et ce n'est pas ainsi que ceci fonctionne. Celui qui déclare la Trinité et qui la fait connaître à vous, c'est Christ. Ainsi, c'est par sa parole, en l'aimant lui, en lui obéissant, que vous recevez votre vie spirituelle, votre joie spirituelle, votre expérience spirituelle. L'œuvre du Saint-Esprit qui est là, à l'arrière-plan, c'est d'amener ces choses à la vie dans votre cœur. Ne dites pas que vous voulez un déversement du Saint-Esprit particulier dans quelque chose que je peux ressentir. Non. Le Saint-Esprit, la vie divine, œuvre en moi, dans mon âme, en amenant à la vie l'Écriture alors que je la lis, et mon affection pour Christ, ma gratitude envers lui, mon amour pour Christ. Et le Saint-Esprit œuvre en nous, et c'est Christ qui me révèle la Trinité. Et plus je l'apprécie, plus je l'aime que je lui obéis, oh, alors le Saint-Esprit me rend capable de l'aimer, de l'apprécier, de le ressentir plus. Et c'est ce qu'il va le faire. Et certains jours, vous allez lire l'Écriture et vous allez lire par rapport à Christ. Et alors que vous allez lire, votre cœur sera réchauffé et vous allez réaliser la profondeur de l'amour de Christ d'une manière toute nouvelle et plus dans ce passage que jamais auparavant. Parce que le Saint-Esprit est celui qui vous rend capable d'aimer Christ. Mais ne lui demandez pas cette expérience frémissante, directe. Non, votre expérience spirituelle sera en relation avec votre amour pour Christ et son obéissance à sa parole. Oh, j'aurais aimé avoir plus de temps pour continuer, mais ce sont là nos différents points pour ce matin. L'être éternel de Christ au verset 15, les capacités infinies de Christ, et nous découlons tout de lui au verset 16, et l'accomplissement extraordinaire de Christ au verset 17 que lui seul pouvait accomplir. Et au verset 18, Christ nous révèle le Père au verset 18. L'évangile de Jean est si merveilleux.